Chers auditeurs, je suis heureux de reprendre des émissions que nous avons déjà faites l'année dernière pendant le mois de Ramadan. Cette année sera également consacrée à une exploration aussi complète que possible de ce que le titre de cette émission a annoncé, à savoir l'islam hier et demain. Cela veut dire que hier, nous devons regarder le passé de l'islam, c'est-à-dire l'histoire de l'islam depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre des changements spectaculaires à l'intérieur de toutes les sociétés qui sont liées d'une façon ou d'une autre à l'islam, et il se produit des événements douloureux liés au terrorisme dont on parle beaucoup, et malheureusement cette page d'histoire est difficile à lire, difficile à faire connaître, difficile à interpréter. Voilà pourquoi notre manière de regarder vers le passé sera commandée par les problèmes posés aujourd'hui par tous les événements que nous vivons, surtout depuis le 11 septembre 2001, qui a donné des conséquences politiques au niveau mondial, et en particulier qui a entraîné ce deuxième grand événement de l'année 2003, le 20 mars 2003, les Américains, nous le savons, sont entrés à Bagdad. C'est un très grand événement qui touche le monde arabe, la conscience arabe, mais qui touche, bien entendu, l'islam, puisque l'islam, comme je l'ai dit, est lié au phénomène du terrorisme international. Bien entendu, nous considérerons tout cela en tant que historien. Je suis, je vous le rappelle, historien de la pensée islamique. J'enseigne l'histoire de la pensée islamique et non pas la pensée islamique, c'est très différent, à la Sorbonne depuis plusieurs années. Et je fais également, comme vous le savez sans doute, tout au moins un certain nombre d'entre vous, je fais beaucoup de conférences à travers le monde, aussi bien dans le monde musulman que dans le monde occidental, aux États-Unis, en Europe, sur les sujets justement qui touchent à l'islam hier et demain. Demain, en quoi nous pouvons évoquer ce qui pourrait se passer ou ce qui devrait se passer pour l'évolution de l'islam comme religion, de l'islam comme pensée, comme cadre de pensée et tradition de pensée, la pensée islamique, et aussi l'islam comme civilisation. On en discute beaucoup, on le sait, aussi bien dans les pays musulmans, mais aussi ce qui est nouveau dans les pays européens. En particulier en France, nous sommes en France, et la France est en train de vivre des pages difficiles. Elles sont difficiles parce que de part et d'autre, je veux dire de la part du public français, de la société civile française, des autorités françaises, aussi bien que de la part des musulmans qui vivent en France, et ils sont, vous le savez, de plus en plus nombreux, on donne le chiffre de 5 millions maintenant de musulmans qui vivent en France, il y a des difficultés qui surgissent pour l'insertion de cette population musulmane avec sa culture et avec ses croyances religieuses dans une société française qui a une histoire, une longue histoire, une riche histoire. Et cette histoire est en train de réagir vis-à-vis de la présence de l'islam sous la forme de ce que les Français appellent la laïcité. Et donc, dans un premier temps, nous allons consacrer un certain nombre de nos conversations, de nos causeries, à cette nécessité aujourd'hui de comprendre qu'est-ce qui se passe sous les noms de laïcité et sous les noms d'islam, un islam qui, malheureusement, est réduit dans les débats de société que nous connaissons depuis maintenant 1989. C'est en 1989 qu'il y a eu pour la première fois une affaire dans un collège de la banlieue parisienne dite du foulard islamique. on avait pensé alors que les choses s'arrangeraient, qu'on comprendrait de part et d'autre que l'affaire du voile n'est pas véritablement une affaire centrale en elle-même. Mais nous nous apercevons que maintenant, on peut dire 13 ans après, a vu des développements tout à fait inattendus, auxquels nous sommes les uns et les autres mal préparés, de l'affaire du foulard ou du voile islamique, à tel point que le président de la République française, M. Jacques Chirac, a créé le 4 juillet 2003, donc il y a quelques mois, une commission nationale de la laïcité pour se pencher sur ces problèmes nés de ce que pour moi, pour ma part, je qualifie les incompréhensions, les ignorances de part et d'autre concernant l'affaire du foulard, je préfère dire moi le voile parce que c'est beaucoup plus complet, et l'affaire des réponses ou les rejets, mais aussi les efforts que développent aussi bien l'État français, les autorités en France, que la société civile en France pour essayer de dépasser tout de même un problème qui, je le répète, ne devrait pas nous aveugler au point de négliger qu'il y va de l'insertion de l'islam comme religion et comme culture dans un monde moderne, d'insérer l'islam dans les grands mouvements de l'histoire contemporaine, et cette affaire du voile est trop réduite pour que nous négligions les problèmes beaucoup plus importants que pose cette adaptation de l'islam aux conditions de vie et d'évolution qui sont offertes à l'islam dans tous les pays européens, puisqu'il s'agit, à travers le cas français, de voir ce qui se passe dans tous les pays européens, et notamment dans cet espace nouveau de l'histoire européenne, l'espace de l'Union européenne, qui est un espace nouveau de la citoyenneté, un espace qui est au-delà des espaces nationaux, des États-nations que connaissent les Européens jusqu'à présent. Et là aussi, il y a des problèmes spécifiques qui concernent les comportements, les conduites actuelles des musulmans en Europe, et ces conduites qui sont évidemment liées à l'islam, encore une fois, dont il faut connaître les données religieuses, il faut connaître les données théologiques, il faut connaître les évolutions qu'a connues l'islam depuis ses débuts, comme nous l'avons dit, et les capacités de la pensée islamique à gérer des problèmes nouveaux posés par l'histoire actuelle, à la fois l'histoire politique, puisque nous avons évoqué le terrorisme qui est lié à l'histoire politique de toutes les sociétés contemporaines, et en particulier de ce qu'on appelle l'islam face à l'Occident. Ce sont deux grands pôles géopolitiques qui reviennent constamment dans les débats nationaux. Et à ce titre, il faut que nous comprenions, nous analysions ce que l'on doit comprendre aujourd'hui par le pôle géopolitique et géohistorique et géoculturel que représente l'islam d'un côté, et le grand pôle également géopolitique, géohistorique, géoéconomique que représente ce que l'on appelle l'Occident. Voilà donc un programme qui est extrêmement riche et que nous allons aborder progressivement, à la fois par de courts exposés, de courts rappels historiques, mais aussi à travers des ouvrages que je vais sélectionner en fonction de l'intérêt de ces ouvrages pour voir ce que les musulmans écrivent aujourd'hui au sujet de ces problèmes-là, mais aussi ce que les occidentaux écrivent au sujet de l'islam. Car il faut dire que les occidentaux, c'est-à-dire plus concrètement les Américains, les Français, les Allemands, les Italiens, les Britanniques, les Japonais aussi, écrivent au sujet de l'islam qui est devenu un point de fixation de l'opinion mondiale, fixation sur les évolutions politiques et les problèmes politiques et économiques, beaucoup plus, malheureusement, que sur les problèmes plus proprement religieux, culturels, intellectuels. Et cela aussi, nous y prêterons une attention particulière. J'essaierai d'être aussi simple que possible, aussi pédagogique que possible, pour ne pas vous décourager, et au contraire, j'espère vous entraîner dans cette marche qui se veut instructive, constructive, et aussi libératrice d'une ignorance, comme je l'ai dit déjà, que les musulmans continuent de manifester quand ils parlent de leur religion, de l'islam, dans la manière dont ils affichent leur foi musulmane dans les sociétés occidentales, mais aussi dans les, chez eux-mêmes, dans leur société d'origine. Nous verrons que la façon dont les musulmans se réfèrent à ce qu'ils appellent leur foi, leur croyance, justement, ne tient pas compte de toutes les connaissances, d'ordre historique en particulier, et d'ordre intellectuel. Et quand je dis les connaissances d'ordre intellectuel, je fais allusion à ce que nous appelons en arabe l'ulum diniya. Et l'ulum diniya, ce sont ce que j'ai appelé l'histoire, c'est la linguistique, c'est-à-dire la science qui étudie la langue arabe, comment fonctionne la langue arabe et comment fonctionnent les textes. Et puis d'autres disciplines auxquelles progressivement j'essaierai de vous initier. Car la foi est une dynamique de chaque personne qui se ressource dans les enseignements de la religion qu'il professe et qui doit sans cesse ajouter aux expressions de la foi les enrichissements qu'apporte constamment la connaissance scientifique sur les religions en général et sur la religion de chaque communauté. Et en ce qui concerne les musulmans, ils ont un besoin urgent, absolument urgent, nécessaire, de donner plus de leur temps, de consacrer plus d'attention à l'acquisition des connaissances nécessaires pour ne pas laisser la foi dériver vers des conduites idéologiques qui se traduisent, hélas, pour certains, heureusement, pas tous, qui se traduisent par des recours à la violence politique pour manifester des oppositions politiques à l'intérieur de chaque société musulmane, mais aussi des protestations vis-à-vis des sociétés d'adoption, c'est-à-dire dans les sociétés où beaucoup de musulmans ont immigré et où des problèmes sont créés du fait justement que les manifestations de la foi ne sont pas suffisamment soumise à la critique qu'apporte la connaissance scientifique de ce qu'est la religion, qu'il faut absolument distinguer de la vie politique. Or, nous constatons qu'il y a des mélanges chez beaucoup de musulmans qui se font des mélanges entre les manifestations de la religion, de la vie religieuse, de la foi, et de l'autre côté, les conduites citoyennes, c'est-à-dire les conduites dans les sociétés, dans les espaces publics, où les citoyens expriment leurs problèmes, leurs besoins, leurs attentes, et qui sont adressés, bien sûr, aux dirigeants politiques de chaque société. Voilà pourquoi il est absolument nécessaire de donner de l'importance à la connaissance et à l'expression, je dirais, scientifique, critique, de la vie de la foi pour chaque religion. Je le répète, ça n'est pas seulement pour les musulmans, c'est vrai pour toutes les religions. Je vais insister sur des ouvrages consacrés à l'étude de l'islam comme religion, à l'étude de l'histoire de la pensée islamique par les chercheurs européens qui écrivent en langue anglaise, en français, en italien, en espagnol, en japonais, en suédois, dans toutes les langues occidentales. Il y a des chercheurs qui sont extrêmement compétents, qui s'intéressent aux tous les problèmes de l'islam comme religion, de l'islam comme pensée, et qui donc doivent intéresser en particulier ceux qui ne lisent pas les langues européennes et lisent seulement l'arabe, car il faut absolument s'intéresser à cette production que l'on appelle la production islamologique sur la connaissance de l'islam d'hier et de demain. Et j'insiste sur cette production scientifique parce que elle n'est pas lue par la plupart des musulmans dans les sociétés musulmanes, et elle n'est pas non plus lue même par les musulmans qui vivent désormais dans les sociétés d'Occident, en Europe et aux États-Unis. Vous verrez que je vais vous donner beaucoup d'exemples d'ouvrages qui sont écrits dans ces langues européennes et qui touchent au cœur même de la pensée islamique, de la vie intellectuelle dans les pays musulmans. Et ces ouvrages-là modifient notre manière de lire les textes religieux, de les interpréter, de les comprendre, parce qu'ils utilisent des méthodes, ils utilisent des outils de connaissance qui ne sont pas toujours connus et à la portée des musulmans et de l'islam tel qu'il est présenté par les oulémas qui surtout insistent sur les explications orthodoxe de la croyance et pas nécessairement sur la connaissance historique et surtout la connaissance théologique, exégétique, l'exégèse des textes coraniques, l'exégèse du hadith qui sont les sources de la loi musulmane. Il y a là des connaissances qu'il faut acquérir et ces connaissances, comme nous le verrons, sont davantage étudiées, approfondies, diffusées dans les langues européennes que dans les langues islamiques, l'arabe, le persan, le turc, l'ourdou, l'indonésien, toutes les langues parlées par les musulmans dans leur société et dans leur culture. Il y a des productions dans ces différentes langues, mais lorsque nous comparons ces productions à celles des chercheurs et des enseignants européens et occidentaux, nous découvrons des différences extrêmement instructives. J'y insiste beaucoup et nous y reviendrons. Alors, je dois m'arrêter. Comme nous avons dit, nous sommes dans la condition de Shahrazad dans les mille et une nuits où le récit est coupé au moment le plus intéressant. Et on dit en arabe « Wa adraka Shahrazad sabah fa sakatat an il kalam il mubah ». À la prochaine fois.
L'islam d'hier à demain. Une émission proposée et présentée par Mohamed Al-Koun sur Radio Orient.
Bonjour tout le monde. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet à propos de l'étude du fait religieux et le fait de dire histoire des religions. Donner des réponses, non pas partisanes, mais des réponses éducatives, des réponses libératrices, qui libèrent autant que possible les esprits, tous les esprits, juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes, car nous avons, je le répète, toutes ces religions représentées en France, pour les libérer d'une compréhension traditionnaliste et d'une pratique traditionnaliste conservatrice des croyances dans l'ignorance, une ignorance continue depuis des siècles, l'ignorance de l'histoire de ces connaissances, l'histoire de ce que les croyants appellent la foi, car la foi a une histoire. La foi des musulmans au Xe siècle est différent de la foi, des expressions de la foi des musulmans au XXe siècle ou au XIXe siècle. De la même façon pour les autres religions. Vous voyez ici en quoi consiste la singularité d'un tel enseignement. Quand je parle de la laïcité devant le fait religieux, j'insiste toujours sur le fait que tout ce qui est dit s'applique à toutes les religions sans exception. Ça ne s'applique pas uniquement à une seule religion. Or, notre difficulté jusqu'à présent, c'est que chaque communauté est habituée, est encore éduquée à ne parler que de sa religion. On ne sort guère de sa propre religion pour aller regarder comment les choses se passent dans les autres religions. Or, cette comparaison est nécessaire et elle est voulue par la laïcité. Et la laïcité peut faire ce travail parce qu'elle s'astreint à dire ce qui se passe, ce qui s'est passé dans l'histoire, sans jamais porter de jugement de valeur sur le fait que les sunnites disent mieux la tradition prophétique que les chiites, ou que les chiites disent sur la tradition du prophète et islamique des choses que les sunnites ignorent parce qu'ils n'accueillent pas toute la tradition laissée par les imams, et que donc les chiites seraient meilleurs détenteurs et meilleurs fidèles de la vérité. L'historien ne s'engage pas dans ces voies-là, qui sont des voies que l'on appelle théologiques. Et il y a donc une grande différence entre l'attitude laïque, qui est neutre par rapport à toutes les formulations de toutes les croyances, et la formulation orthodoxe de la croyance à l'intérieur d'une communauté qui va jusqu'à ignorer qu'elle n'est pas la seule à se réclamer de la vérité enseignée par le Coran, de la vérité enseignée par le prophète. Voilà l'apport crucial et, comme on le voit, libérateur intellectuellement et spirituellement de l'attitude laïque devant l'étude du fait religieux. On dit le fait religieux comme on dit le fait biologique, ou le fait ou phénomène chimique, ou le fait ou phénomène astronomique, parce que un fait, c'est ce qui se manifeste devant nous, mais qui est tellement complexe qu'il faut développer de grands efforts de méthode, développer de grandes et vastes lectures pour pouvoir se faire une idée la plus juste possible de ce qui se passe à l'intérieur de chaque religion. Et, je le répète, cela ne peut pas se faire sans faire tout le temps, en cheminant vers la connaissance des religions, sans faire des comparaisons entre, par exemple, la façon dont le christianisme définit ce que les trois religions monothéistes appellent la révélation, la façon dont l'islam définit et met en pratique dans sa théologie ce que nous appelons aussi la révélation, et ce que les juifs font de la même façon en se basant sur la Bible hébraïque. Il faut parcourir tout cet ensemble. Et nous allons le parcourir ensemble parce que dans chaque lycée français, dans chaque université française, allemande, britannique, nous avons des élèves, nous avons des étudiants qui appartiennent à toutes ces religions, et non pas seulement ces religions. Il y en a qui appartiennent à l'attitude athée. Il y en a qui appartiennent au bouddhisme, qui ne reconnaît pas, qui ne parle pas de la révélation. Il parle de Bouddha, qui est un sage et qui a transmis un enseignement de sagesse, et qui ne connaît donc pas cette discipline que nous appelons la théologie. On voit très bien ici la nécessité d'avoir une distance vis-à-vis de l'ensemble des religions pour permettre à chacun de regarder sa propre religion, sa propre tradition de pensée, avec les regards multiples qui viennent des autres religions. C'est nos sociétés, le pluralisme ethnique, confessionnel, linguistique, philosophique de nos sociétés qui exige que nous ayons pour l'enseignement cette attitude plurielle, cette attitude de souplesse qui écarte absolument toute espèce de jugement de valeur et encore plus toute espèce de condamnation pour dire à quelqu'un que vous n'avez pas du tout accès à la vérité, vous êtes tout à fait en dehors de la vérité et nous, nous sommes dans la vérité, c'est pour cela que nous agissons d'une façon tout à fait différente de vous, même dans l'espace civique. Je crains que mes propos toujours ne vous apparaissent difficiles et c'est normal parce qu'il y a beaucoup de préparation, de lecture qu'il faudrait faire pour pouvoir bénéficier totalement de cette approche nouvelle de la question religieuse face à ce que nous apprenons dans la culture laïque et l'attitude laïque vis-à-vis du phénomène religieux. Alors, je voudrais vous rassurer, je passe en revue les titres de conférence comme nous l'avons dit, mais je reviendrai sur tout ce que j'ai dit en prenant des livres qui traitent de façon détaillée de tous les problèmes que j'effleure trop rapidement, je le sais, pour essayer de expliquer davantage et de vous aider à comprendre davantage tout ce que j'évoque à propos des grands titres qui sont des titres, comme vous, nous allons le voir aujourd'hui avec un autre exemple, des titres provoquants. Ils provoquent la réflexion. Ils demandent à chacun, à chaque auditeur, de réfléchir. Ça n'est pas simplement des connaissances plates, des connaissances figées que nous essayons d'acquérir. C'est une dynamique de la pensée. C'est une dynamique de l'esprit pour agir d'une façon plus éclairée dans nos sociétés et pour dépasser les conflits inutiles à travers lesquels les citoyens sont en train de passer et on peut très bien en faire l'économie. Les religions sont-elles naturellement intolérantes ? Vous voyez ce titre, comme ce titre est inhabituel. Car on se bat tout le temps sur les religions. Est-ce que les religions pratiquent la tolérance ? Ou bien est-ce qu'elles sont intolérantes ? Et cela s'applique à toutes les traditions religieuses. Et bien entendu, chaque communauté, quand on va dans les conférences internationales, dans les rencontres, les séminaires, où viennent participer des représentants de différentes religions, chaque communauté, représentée par un professeur ou par un rabbin, un imam, ou par simplement quelqu'un de cultivé qui s'intéresse à ces questions, va défendre l'idée que sa religion, la religion à laquelle il appartient, est tolérante. Alors que d'autres vont accuser cette même religion de manifester de l'intolérance et même du fanatisme. Vous voyez très bien ici la question du fanatisme et le mot fanatique est souvent prononcé à propos de l'islam. Et donc, pour faire justice de ce jugement de valeur, qui n'est pas fondé sur une connaissance historique solide et fiable, ce jugement-là ne peut pas être formulé avec autant d'agressivité si on se pose la question de toutes les religions pour les soumettre toutes à la même analyse historique, pas théologique, parce que la théologie s'occupe de la théorie, de l'idéal, de l'orthodoxie idéale qui est donnée aux croyants pour, évidemment, essayer d'introduire dans leur esprit, effectivement, des attitudes de tolérance. Mais tant que ça reste théorique, on a vu au cours des siècles que ça n'a pas marché et que toutes les religions ont manifesté des attitudes d'intolérance, puisque l'intolérance dans les guerres que se sont livrées les différentes fractions des religions ont toujours existé, malheureusement, et donc il faut gérer cette réalité historique. Dans l'ensemble de ces religions, il y a en effet des conditions d'enseignement de la croyance religieuse qui aboutissent dans la façon même dont les religions sont enseignées, le catéchisme, ce qu'on appelle le catéchisme en français, ou l'enseignement orthodoxe des religions que nous donnons dans les pays musulmans, qui se donnent dans les pays musulmans, à l'école et à l'école publique officielle, car dans les pays musulmans, la religion est enseignée officiellement. On enseigne la religion musulmane sans faire intervenir les autres religions la plupart du temps. Et vous voyez donc ici qu'il y a des conditions éducatives, des conditions politiques, des conditions sociales qui font qu'effectivement, on traite la religion de telle façon qu'on omet d'enseigner ce qu'il faudrait enseigner pour éviter de tomber dans les intolérances et même dans les fanatismes. Là aussi, le nombre de conférences internationales, le nombre de séminaires, le nombre de rencontres qui s'organisent à travers le monde, surtout depuis le 11 septembre 2001, à propos de la religion, la paix et la guerre, ce nombre-là s'est multiplié d'une façon tout à fait considérable. Peut-on dire pour autant que toutes ces conférences qui se déroulent ont changé quelque chose à la manière dont chaque communauté traite et comprend sa propre religion ? Et à la manière dont chaque communauté s'exprime et exprime sa foi dans chaque société, qu'il s'agisse des sociétés d'origine pour les immigrés ou des sociétés d'accueil pour ces mêmes immigrés qui ont émigré dans les sociétés d'Occident. C'est un sujet d'une extrême importance et nous savons ici aussi que le mot « jihad » est dans toutes les bouches. On ne peut pas parler de la guerre et de la paix sans immédiatement soulever la question, surtout en Occident, en Europe, la question du djihad selon l'islam. Je n'ai pas le temps de répondre à cela. C'est un très grand sujet. Je peux dire seulement que, ici, la question du djihad est abordée dans l'optique générale de ce que les religions appelle toute la guerre juste. La guerre juste. Qu'est-ce que la guerre juste ? Est-ce qu'une guerre peut être juste ? Voilà des problèmes extrêmement importants qui ont besoin d'explications et ont besoin de professeurs bien versés dans ces questions-là pour rendre ces questions-là plus accessibles et mieux comprises. À la prochaine fois. Avant d'aborder, comme je l'ai promis, la vaste et difficile question de l'élaboration de ce que les musulmans appellent la charia, la loi divine, et de ce que la pensée moderne appelle le droit positif, c'est-à-dire le fiqh, je voudrais poser un problème central que j'ai déjà effleuré en vous parlant du rôle des Sahaba dans la transmission non seulement des textes, mais de l'autorité religieuse et normative qui s'attache aux textes, à deux textes tout à fait fondateurs, pas seulement fondamentaux, mais fondateurs, fondateurs de la foi islamique, fondateur de la vérité religieuse de ce que le Coran appelle « din al-haq », la religion vraie, par opposition à toutes les autres religions qui seront déclarées non vraies, fausses, y compris le judaïsme et le christianisme, qui ne sont pas déclarés des religions fausses, mais dont les écritures, dit le Coran, ont été altérées. Tahrif. Il y a là des questions immenses. Et ces questions immenses, nous les avons reçues des élaborations tardives, comme je l'ai expliqué avec l'exemple très parlant d'Ibn Taymiyyah. L'islam sur lequel nous vivons est un islam construit par des auteurs tardifs, c'est-à-dire des gens comme Al-Hamidi, Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim al-Jawziyyah et beaucoup d'autres ont travaillé sur des textes antérieurs à eux qui ont été produits entre le 1er et le 4e siècle de l'Hégire. Et ces penseurs musulmans des 13e, 14e siècle n'étaient pas des historiens, je le répète, et donc ont utilisé des textes qui étaient en réalité des constructions mytho-historiques et non pas des textes d'histoire. Je vais vous donner un exemple en vous introduisant à un autre problème clé de la pensée islamique et qui nous torture tous aujourd'hui. C'est le problème de la légitimité politique. Car le problème de la légitimité politique va se poser immédiatement, nous le savons, après la mort de Mohammed en 632, comment régler la succession de Mohammed. Alors voici un texte extrêmement éclairant, il est moderne presque, bien qu'il soit attribué au premier calife, Muawiyah lui-même. Voici comment Muawiyah s'exprime. Ou comment on l'a fait parler dans ces textes mytho-historiques construits, je le répète, entre le 1er siècle de l'Hégire et le 4e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire 7e, 10e siècle. Un jour, Muawiyah s'adressant au Banu Hashim, c'est-à-dire le clan auquel appartient le prophète, dit « Informez-moi au sujet de votre revendication du califat pour vous seul à l'exclusion du reste des Quraysh. » Le reste des Quraysh, c'est-à-dire la famille ou le clan des Omeyyades, les Banu Sufyan, dont Muawiyah descend. Voilà posé le problème de la rivalité antérieure à l'islam entre les Banu Sufyan et les Banu Hashim, Abu Sufyan au temps du prophète, qui s'est opposé frontalement à Mohammed au temps du prophète, et puis les Banu Hashim, représentés en l'occurrence par le prophète, mais un prophète, c'est Mohammed ibn Abdullah qui émerge de la famille des Hashim. Donc, il pose le problème de la revendication du califat après la mort du prophète. « Sur quelle base doit-il vous revenir ?» dit Muawiyah au Banu Hashim. Je vous rappelle que Muawiyah, on vient de sortir de la Fitna al-Kubra 661, qui a divisé les premiers musulmans, déjà. Et cette grande querelle, comme on l'appelle, la Fitna al-Kubra, tournait autour de la succession de Muhammad. Est-ce que cette succession devait être assurée dans la lignée des Banu Hashim ou dans la lignée des Banu Sufyan, deux clans qui tous deux remontent à un ancêtre éponyme de la tribu des Quraysh. Est-ce en vertu de l'agrément et de l'accord unanime que vous auriez obtenu et non en raison de votre lien de parenté avec le prophète ou en faisant valoir ce lien de parenté plutôt que l'agrément et l'accord unanime, ou peut-être en vous appuyant sur les deux arguments à la fois. Car cette question, question du gouvernement islamique, doit être tranchée sur la base d'un accord unanime et d'un agrément non d'après la parenté al-qaraba. Je ne vois pas la parenté fondant ni un droit ni un pouvoir. Cependant, si vous soutenez que c'est la parenté qui doit être prise comme source de l'autorité, hukm, et non pas sulta en arabe, bien différencier les deux mots qui sont des concepts du vocabulaire politique et de la pensée politique, al-hukm ou sulta. Les khulafa sont censés détenir un hukm, tandis que les sultans ottomans ont été appelés des sultans et non pas des khulafa. Vous voyez donc que le droit, qu'on peut appeler le droit constitutionnel, a hérité de cette problématique que défend ici le texte attribué, je dis attribué car on va voir qu'il y a un problème d'authenticité de ce texte. Est-ce qu'il faut bien l'attribuer à Muawiya ou faut-il l'attribuer à quelque auteur tardif au moment où il y a eu la lutte entre la famille des Banu Hashim reprise par les Abbasides pour conquérir le pouvoir sur les Omeyyades, ou bien est-ce qu'il faut effectivement dire que ce texte est authentiquement de Muawiya? Voilà un exemple de tout ce que je vous ai dit et répété souvent, un exemple de texte qui parle d'un problème clé, mais dont l'authenticité n'est pas assurée. Et comment l'assurer? Eh bien, c'est cela le travail de l'historien, précisément. Le texte attribué au calife Muawiya, j'ai dit calife Muawiya, mais je pourrais dire aussi au Malik Muawiya, car une fraction des musulmans après la bataille de Siffin, quand Muawiya a pris le pouvoir, refusait à Muawiya le titre de calife. Et on l'a donc appelé aussi Malik, c'est-à-dire un roi, quelqu'un qui a pris le pouvoir sans la légitimité islamique. Le point important ici, c'est comment définir la légitimité islamique, alors que jusque-là, il n'était pas question de élection au poste de califat, califat c'est-à-dire lieutenant successeur du prophète, et donc c'était quelque chose d'entièrement nouveau, et il n'y avait pas encore les discussions, les débats qui vont avoir lieu à partir de 661 surtout, et qui vont se développer encore plus lorsque les théologiens vont entrer en scène progressivement à partir du temps des Omeyyades précisément. Et le texte que je vous ai lu est extrait d'un livre qui s'appelle Akhbar al-Abbas, l'oncle du prophète, les récits relatifs à la vie de al-Abbas. Et donc ce texte appartient surtout aux discussions, aux polémiques, aux débats, aux controverses qui ont alimenté les courants de légitimistes du côté des Banu Hashim pendant toute la période Omeyyade. Et le problème de savoir donc pourquoi il a été attribué à Muawiya reste un problème ouvert sur lequel les historiens se penchent. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le débat sur la légitimité et le débat sur l'autorité religieuse, de la sphère religieuse et le pouvoir politique que le calife, qu'il s'appelle calife ou qu'il s'appelle sultan ou qu'il s'appelle émir ou qu'il s'appelle aujourd'hui un président de la République, d'une République qui affirme dans la Constitution que l'islam est la religion d'État, eh bien cette relation entre l'exercice de l'autorité religieuse et l'exercice du pouvoir politique, cette articulation des deux instances, comme on dit, n'est pas encore résolue. Voilà le problème que je voulais vous faire sentir. Ce problème est d'une grande actualité. Et il a toujours été d'une grande actualité. Et il n'a pas cessé de préoccuper tous les penseurs de l'islam depuis pratiquement la première fois où un calife a été élu, c'est-à-dire depuis Abou Bakr. L'autorité est exercée, comme nous l'avons dit avec les compagnons, la génération des suivants, et comme nous l'avons dit avec tous ceux qui ont contribué à collecter le hadith et à collecter les textes coraniques pour les constituer dans des volumes qui vont devenir des références obligées pour, en particulier, les fuqaha et les théologiens. Tout ce travail-là n'a pas encore été étudié en islam de façon telle que nous puissions clarifier enfin aujourd'hui la question de la légitimité dont se sont emparés malheureusement des mouvements musulmans qui utilisent la force pour régler une question qui relève essentiellement des ulama mujtahidoun qui ont la capacité d'analyser des textes comme celui que nous avons lu et qui pose, comme vous le voyez, si vous vous en souvenez, qui pose la question sur deux registres différents. Il pose la question sur le registre religieux de la légitimité telle qu'elle découle du texte coranique et qu'elle découle des enseignements et des conduites du prophète, d'une part, et d'autre part, il pose la légitimité sur le terrain de la parenté, les liens de parenté. Pour comprendre l'importance de cette deuxième référence, qui est une référence anthropologique, je ne peux pas ne pas citer la thèse fondatrice, magistrale, du grand anthropologue français qui s'appelle « Les structures élémentaires de la parenté ». Car les structures élémentaires de la parenté ont commandé les mécanismes de dévolution du pouvoir, les mécanismes de prise de pouvoir dans tous les groupes sociaux, quelle que soit leur référence religieuse, depuis les origines des sociétés humaines jusqu'à nos jours, les liens de parenté que Ibn Khaldoun a si bien décrit avec le concept de Asabiya, la solidarité agnatique, ces liens de parenté n'ont jamais cessé. Dans toutes les sociétés où l'islam s'est pourtant imposé comme référence pour construire une légitimité de type spirituelle, religieuse, reposant sur une autorité spirituelle et morale et non pas sur la force, eh bien tout ceci reste encore en friche pour tous les musulmans. Et je dirais même que la question des rapports entre l'instance de l'autorité et l'instance du pouvoir a été totalement embrouillée à partir du moment où la violence politique dans les sociétés a pris le dessus sur les débats, ce que l'on appelait autrefois les munavarat, qui se déroulaient entre les savants musulmans, les savants chiites, les savants ismaéliens, les savants kharijites, les savants sunnites, et à l'intérieur de chacune de ces grandes fractions, il y avait de nombreuses écoles. Par exemple, parmi les kharijites, qu'on nomme comme ça d'un nom global les kharijites, en réalité, il y avait plusieurs maîtres. Alors, pour essayer de vous suggérer, là encore, comment s'articule la question de l'autorité, d'une part, et de la norme contraignante qui va être appliquée dans les sociétés sous le contrôle du calife, sous le contrôle des juges qui sont nommés par le calife et donc sous le contrôle aussi de la police qui va faire exécuter des jugements. C'est véritablement ici l'organisation de la cité et nous sommes avec le droit en plein dans le champ politique. Et par conséquent, le problème se pose aujourd'hui, mais il s'est déjà posé, même au Moyen-Âge, au temps où la charia et le fiqh étaient dans la phase de construction et d'instauration pour la première fois. Le problème de savoir comment faire intervenir l'autorité religieuse qui touche à la conscience individuelle du croyant, comment la faire intervenir dans un espace social où vivent ce qu'on peut appeler des sujets autrefois, les sujets du calife ou les sujets du roi, et aujourd'hui où vivent des citoyens. Vous sentez tous que cette question est d'une actualité tout à fait vitale. Donc, première date que je vais vous donner, je crois vous l'avoir donnée déjà, mais je la rappelle dans ce contexte, c'est la date d'Ibn al-Muqaffa, qui est mort en 757, c'est-à-dire à la fin de la dynastie Omeyyade. Puis, le grand juriste, penseur Abu Hanifa, il est mort en 767. Donc, on est déjà entré dans la période de la dynastie Abbaside. Les Omeyyades sont partis à partir de 750. Puis vient le grand nom aussi, que je mets tout de suite après Abu Hanifa, pour des raisons de chronologie, Ja'far Sadiq, 765. Or, Ja'far Sadiq, c'est le sixième imam pour les chiites. C'est donc l'autorité de l'imam selon la doctrine chiite de la succession au prophète, succession à travers Ali et sa descendance par Ali et Fatima. C'est ce que disait le texte de Muawiyah, la succession par les liens de parenté. Ensuite, il y a le nom d'Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, c'est un des premiers biographes du prophète, mais la biographie du prophète, encore une fois, ça n'est pas seulement la biographie. Les éléments que contient la biographie du prophète vont être utilisés comme des références pour appuyer l'interprétation soit des versets, soit des hadiths que vont utiliser les juristes. De même, même époque, je nomme Muqatil ibn Sulayman. C'est un des premiers grands exégètes du prophète dont nous avons conservé le livre sur l'exégèse du Coran, et il est de 768 aussi. Vous voyez, nous sommes dans une même génération. Je mentionnerai aussi le nom de Sibawayhi. Sibawayhi est mort très jeune, hélas, c'était un génie. Il est mort en 796. Fin du 8e siècle. Pourquoi est-ce que je mentionne Sibawayhi? C'est le fondateur de la grammaire arabe. Or, la théologie et le droit, le fiqh, vont se construire avec la connaissance des structures grammaticales et des mécanismes grammaticaux de la langue arabe, sans lesquels nous ne pouvons pas interpréter le Coran, nous ne pouvons pas interpréter le hadith. Vous voyez comment on travaille, je l'espère. Je ne vous ai pas cité que des juristes. Je vous ai cité des noms d'autres spécialistes travaillant dans d'autres domaines, mais ces domaines-là, en ce temps-là, sont liés. Le travail de Sibawayhi est fondateur. Il est premier. Or, il s'effectue à la fin du 8e siècle seulement. Jusque-là, il n'y avait pas un ouvrage scientifiquement articulé comme celui de Sibawayhi pour se mouvoir dans les analyses grammaticales des textes sacrés qui sont écrits en langue arabe et qui relèvent par conséquent de la grammaire arabe. Et d'ailleurs, il y a un livre que je vous cite et qui appuie l'importance de ce que j'essaye de vous communiquer. C'est un livre de mon collègue à la Sorbonne et qui a été aussi un de mes maîtres parce qu'il est bien plus âgé que moi, il est toujours vivant, Arnaldez, Roger Arnaldez, a écrit sa thèse de doctorat sur grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue, un grand nom de la pensée musulmane, Ibn Hazm de Cordoue. Un jour, si nous en avons le temps, je vous parlerai d'Ibn Hazm parce que c'est un des très très grands penseurs qui appartient à une école zahirite, une école qui a disparu. Pourquoi a-t-elle disparu? Parce que les malikites en Andalousie et au Maghreb n'en voulaient pas. Ils ne voulaient pas de concurrence. Voilà, je dis ces choses-là en vrac, Mais vous voyez, chaque chose que je vous dis, véritablement, elle casse les représentations simplistes que nous avons du fonctionnement de la pensée islamique et de l'histoire, en particulier de la charia. Je citerai aussi le nom de Ibn Sa'd. Ibn Sa'd, qui est mort, lui, en 846, et qui est un très grand auteur, qui a ramassé, presque à la manière de Tabari, dont je vous ai déjà parlé, qui a ramassé différentes mémoires, des récits qui ont circulé jusqu'à lui. Nous sommes au 9e siècle, la première moitié du 9e siècle, donc il y a une masse de récits qui ont circulé et qui appartiennent à différents courants de pensée, différents courants politiques qui ont déjà agité beaucoup de problèmes dans l'espace islamique qui est, en 845, c'est déjà l'espace de l'Empire abbasside, et avec des multiplicités de réponses à des tendances culturelles et à des systèmes de pensée extrêmement variés. Je vous remercie pour votre fidélité.